l'Église, surtout le 4e siècle. On va plus particulièrement ce soir, ce qui concerne Constantin et l'âge nicéen, c'est-à-dire l'âge des grands conciles, grand concile œcuménique, et en particulier les principaux d'entre eux, enfin le seul finalement à l'époque du 4e siècle, le concile de Nicée. Peut-être que nous pourrions dire d'abord quelques mots sur la situation de l'Église à la veille de l'avènement de Constantin. La situation, entendue, spirituelle de l'Église. La première constatation, c'est que à la veille de l'avènement de Constantin et donc de sa conversion, l'Église avait acquis une croissance numérique extrêmement importante. C'était, sur ce simple point, une puissance avec laquelle il fallait compter. Et on ne pouvait plus ignorer le poids et l'influence de ces millions de gens qui faisaient profession de croire en Jésus-Christ. Les chrétiens étaient répartis dans toutes les régions de l'Empire romain. Géographiquement, donc, c'était tout l'Empire qui était intéressé par cette croissance numérique des chrétiens. Ça va ? Ça répond pas ? Ah. C'était donc l'ensemble du monde romain qui était intéressé par cet accroissement numérique des chrétiens, et ces derniers avaient une puissance et un pouvoir qui étaient absolument certains. Seulement, il y avait l'envers de la médaille, c'est que nous avions déjà affaire à ce moment-là à une Église qui était absolument mondanisée. C'était une Église dans laquelle le laxisme était entré. Finalement, une Église qui, par bien des aspects, ressemblait à ce qu'est l'Église du XXe siècle. C'était une Église aussi dans laquelle la corruption régnait, au niveau du clergé en particulier. Nombreux étaient les prêtres, les évêques, les responsables de tous ordres qui vivaient dans la mondanité, qui déjà se conduisaient comme des grands seigneurs, en tout cas qui vivaient dans un compromis savant avec déjà les pouvoirs, si bien que, en fin de compte, on peut dire que la conversion de Constantin n'a fait que sanctionner et officialiser une interpénétration entre le monde et l'Église qui existait déjà dans les faits. D'autre part, il y avait aussi des hérésies. Les hérésies des siècles précédents avaient continué à fleurir, même si un certain nombre d'entre elles avaient été jugulées. Mais l'hérésie, nous allons le voir, la plus grave et qui avait menacé profondément, n'est-ce pas, le christianisme à cette période-là, c'est essentiellement l'hérésie arienne. Je laisse ça de côté, nous y reviendrons. Bien entendu, les hérésies, parmi lesquelles l'hérésie arienne était la principale, mais non pas la seule, ça, provoquaient aussi des divisions. Et là, il nous faut une fois de plus nous élever avec force contre la vision catholique d'une Église qui aurait été unie jusqu'à la réforme du XVIe siècle et qui aurait été donc une et... La tunique, vous savez, comment ils appellent ça, la tunique sans couture du Christ qui n'aurait pas été déchirée avant la réforme, n'est-ce pas, par cet abominable bonhomme que fut Luther, n'est-ce pas? Non, c'est absolument historiquement faux. L'Église était déjà une Église secouée par des divisions, secouée par des schismes. Alors, bien entendu, l'Église officielle excommuniée ces groupements hérétiques, à tort ou à raison, hérétiques. Nous allons voir qu'il y en avait qui n'étaient pas tant que ça. Et puis ensuite, les ignorer. Pour elles, ils n'existaient plus. Alors évidemment, c'est une manière commode de dire, eh bien, l'Église était une et indivise. Encore une fois, dans la réalité, si on se dégage du point de vue théologique de l'Église romaine pour tout simplement envisager les choses avec l'objectivité de l'historien, obligé de reconnaître que l'Église était profondément divisée. Alors, nous pouvons dire qu'à la veille de l'avènement de Constantin, il y avait une Église qui, spirituellement, était entrée en décadence. Bien entendu, la conversion de Constantin ne va rien arranger, bien au contraire. Déjà, Constantin lui-même est un homme qui n'est pas particulièrement recommandable. C'est un homme qui d'ailleurs ne se fera baptiser que sur son lit de mort, n'est-ce pas ? La mère de Constantin, Hélène, elle-même est une femme répudiée. Donc, voyez-vous, nous ne sommes pas ici des gens qui sont des lumières et des modèles d'une sainteté, d'une droiture évangélique. En 312, comme nous l'avons vu ensemble la dernière fois, il y a eu la fameuse bataille du pont de Milvien, au cours de laquelle Constantin défait son rival Maxence, et il le fait, si l'on en croit la tradition, nous l'avons dit, après avoir reçu une vision de la croix. Il avait vu une vision dans le ciel et il a entendu une voix lui dire « Par ce signe, tu vaincras. » Et Constantin avait fait broder donc une croix sur les enseignes, sur les drapeaux de ses légions. Et effectivement, le sort de la bataille qui avait lieu le lendemain a été favorable à Constantin, soi-disant, par la croix. Et à partir de ce moment-là, la croix va remplacer les enseignes les romaines, n'est-ce pas, qui étaient classiques jusque maintenant, et maintenant tout cela va être remplacé par des croix. Alors on voit évidemment que là aussi nous baissons quand même pas mal encore à nouveau d'un cran dans le domaine des choses spirituelles, puisque maintenant la croix devient un signe magique et nous entrons ici dans une vision extrêmement sacramentaliste des choses. En 324, Constantin a terminé d'affermir son pouvoir et il est le seul maître du vaste empire romain. Il le fait essentiellement grâce à l'appui qu'il apporte aux chrétiens. Les chrétiens, qui comme l'avons vu, sont un nombre important dans l'empire, bien entendu, à partir du moment où Constantin leur a accordé la liberté, eh bien, ils sont tout acquis à la cause de Constantin. Et Constantin peut compter sur eux, sur la fidélité indéfectible des chrétiens, pour le soutenir dans ses luttes contre ses rivaux. C'est ce qui se passe lorsque, encore une fois, en 324, Constantin élimine tous les rivaux éventuels, tous ceux qui auraient pu lui contester son pouvoir et son trône. Et c'est ainsi qu'en 330, il transporte la capitale de l'Empire de Rome dans une nouvelle ville sur le Bosphore qu'il nomme Constantinople, c'est pas du nom de qui est le sien. Et c'est dans cette ville qu'il crée, on va dire, la première capitale chrétienne de l'Empire. C'est la première ville dans l'Empire où il n'y ait aucun autre culte célébré que le culte chrétien. Le culte chrétien est le culte officiel. On y construira une cathédrale importante, Sainte-Sophie, qui existe encore aujourd'hui et qui est transformée en mosquée. Pas les musulmans, mais qui manifeste ainsi toute la gloire de l'Empire. Hélas, c'est dans le même temps que éclate la grande, grande querelle qui va agiter l'Église pendant l'époque constantinienne, l'hérésie d'Arius. Arius est un ancien de l'Alexandrie, de l'Église d'Alexandrie, cette Église déjà où il y avait pas mal de courants quelque peu marginaux, quelque peu hérétiques, où les spéculations théologiques et philosophiques allaient bon train. Et c'est en 313, n'est-ce pas, que Arius, d'une manière officielle, défend ce qui sera sa thèse essentielle, c'est-à-dire que Jésus est un être créé. C'est une créature de Dieu. La première des créatures de Dieu, la plus importante, mais une créature de Dieu. Et de là, bien entendu, de cette affirmation première, Arius découle un certain nombre de conséquences extrêmement importantes. La première, c'est qu'on peut se demander ce qu'il en est et ce qu'il reste, alors, d'abord, de la préexistence du Christ. Qu'en était-il du Christ avant sa création, entre guillemets? Et si donc le Christ n'est pas éternel, qu'en est-il de sa nature divine? S'il est une créature, il n'est donc pas Dieu. Et s'il n'est pas Dieu, qu'en est-il de la rédemption? Quelle est la valeur de son sacrifice expiatoire? Et par conséquent, quelle est la valeur du salut qu'il a acquis aux croyants sur la croix? On voit bien que là, l'enjeu est vraiment de taille. Et on peut dire que c'est vraiment une des contestations les plus graves que l'on puisse porter sur la foi chrétienne que ce qui était l'hérésie d'Arius. Aucune hérésie jusqu'alors n'avait été aussi grave. Les hérésies portaient jusqu'alors sur des points plus ou moins secondaires, mais ici nous touchons à l'essence même de la foi chrétienne. Très vite, la querelle dégénère, querelle qui avait commencé en 313, et en 321, après examen de son cas, Arius est excommunié. Mais il n'en reste pas là. Il prêche sa doctrine un peu partout et il fait de nombreux adeptes. D'abord en Égypte, où l'on se complaît dans la spéculation théologique. Si vous voulez, l'Égypte ancienne était ce qu'est l'Allemagne d'aujourd'hui, si j'ose dire, le paradis des théologiens de tous ordres. Et en Égypte, il y a de nombreux partisans qui se joignent à Arius et qui propagent sa doctrine un petit peu partout. Et bientôt, la progression des Ariens, comme on les appelle, est telle qu'ils risquent, en tout cas déjà dans certaines régions de l'Empire, ils sont plus nombreux que les orthodoxes. Alors le danger ici est important. Et c'est pourquoi on décide, n'est-ce pas, de rassembler les évêques du monde entier, les théologiens, de façon à discuter et à établir d'une manière claire pour toute la chrétienté ce qu'est la doctrine, la christologie. En fait, ici, il s'agit du point essentiel de la christologie. Quelle est la nature réelle du Christ ? Et ce rassemblement des évêques va prendre le nom de concile, concile œcuménique. Ce sera le premier concile œcuménique de l'histoire de l'Église, si on est nommé ce que les catholiques appellent le concile de Jérusalem, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, le premier concile au sens technique du terme, digne de ce nom, n'est-ce pas, sera ce qu'on appelle le concile de Nicée. Mais avant d'entrer dans cette question du concile de Nicée, j'aimerais que nous nous arrêtions sur un autre chapitre qui est en général très peu vu par les historiens d'histoire de l'Église et que j'appellerais le christianisme dans la chrétienté. En effet, à partir de Constantin, naît réellement ou apparaît officiellement la notion de chrétienté. Qu'est-ce que cela veut signifier? Eh bien, chrétienté, c'est une situation, un régime, où la société civile se confond avec la société religieuse. À partir de Constantin, c'est l'Empire romain tout entier qui est chrétien. Bien entendu, en 312, l'édit de tolérance est véritablement un édit de tolérance, c'est-à-dire que il accorde aux chrétiens l'égalité des droits avec les païens. Les prêtres chrétiens ont le même rang que les prêtres païens, ils ont droit aux mêmes revenus, aux mêmes subventions de l'État que les prêtres païens. Les églises chrétiennes ont droit aux mêmes prérogatives, aux mêmes subventions que les temples païens, mais pendant tout un temps, les deux religions continuent à coexister côte à côte. Bien entendu, le christianisme est, n'est-ce pas, quand même favorisé dans les faits, même si dans les lois, les deux religions sont sur le même plan. Il y a une espèce de séparation d'Église et de l'État, si on ose dire, où la société romaine, sur le plan religieux, est conçue comme une société pluraliste. Mais dans les faits, le christianisme est favorisé par rapport à la vieille religion païenne. Nous allons d'ailleurs voir les problèmes que ça pose, notamment après la mort de Constantin. Mais dans les faits, dans la réalité, il est évident qu'il y a une progression nette du christianisme et en même temps une diminution importante du paganisme. D'abord parce qu'il y a des mesures qui sont prises par l'empereur et le pouvoir dans ce sens-là, mais également pour une autre raison très simple, c'est que les dignitaires de l'Empire se sont tout de suite rendus compte, n'est-ce pas, que pour être bien vu par Constantin, pour faire carrière, il valait mieux être chrétien. Et c'est alors que des foules de païens entrent dans l'Église. Des foules de païens se convertissent, mais non pas pour des raisons vraiment spirituelles, mais pour des raisons sociales, pour des raisons d'avancement, pour des raisons d'avantage matériel, bref, pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec l'Évangile véritable. Et c'est ainsi qu'entrent dans l'Église des foules de païens mal christianisés, mais qui restent au fond d'eux-mêmes païens, qui n'ont qu'un vernis chrétien. Et ce mouvement s'accentue beaucoup, beaucoup dans les villes, beaucoup moins dans les campagnes, où la vieille religion païenne va subsister pendant plusieurs siècles, les idées nouvelles pénétrant difficilement, d'où d'ailleurs l'expression « païen », qui vient justement du mot paysan, des gens qui habitaient dans la campagne, n'est-ce pas ? Et qui étaient des gens, donc, qui restaient fidèles à la vieille religion païenne. Alors, ces gens qui entrent dans l'Église amènent avec eux toutes sortes de pratiques et de coutumes païennes. C'est ainsi, par exemple, que la vieille fête du solstice d'hiver, qui se tombait le 24 décembre au soir, et qui était depuis donc les empereurs précédents, n'est-ce pas, la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu, à un moment où le culte du soleil invaincu était devenu le culte officiel de l'Empire, n'est-ce pas? Eh bien, cette vieille religion qui était devenue très populaire parmi les gens de l'Empire romain, on ne va pas la supprimer. Qu'est-ce qu'on fait? On la christianise. Et ça devient Noël. Le soleil, le vent qui nous a visités d'en haut, bon, on fait une assimilation, si bien que les gens, ma foi, après tout, ils ne sont pas trop dépaysés, n'est-ce pas? La fête de la Toussaint, c'était une fête des dieux infernaux, des dieux là, etc. Eh bien, on en fait la fête de tous les saints, avec l'allusion à tous ceux qui sont morts, tous les martyrs, etc. Pareil, là, les gens dans ce domaine-là ne sont pas dépaysés. Avait commencé également, dans les siècles précédents, le processus de canonisation, c'est-à-dire où on avait distingué des hommes et des femmes, notamment les martyrs, dont on vénérait les reliques, et qui étaient considérés comme des gens d'une essence supérieure, d'une nature supérieure. Et on va continuer dans ce sens-là, mais faire de ces gens-là des êtres d'essence quasi divine. Et puis en même temps, n'est-ce pas, assimiler et placer sous leur patronage, plus exactement, des lieux, des sources, des bois, où l'on vénérait autrefois des divinités païennes. Et ces divinités païennes vont être remplacés dans le patronage de ces lieux ou de ces jours, n'est-ce pas, par des martyrs chrétiens auxquels on va donner le nom de saints, et qui, dans la piété populaire en tout cas, sinon dans la théologie officielle, seront des sortes de demi-dieux qui remplaceront les dieux d'autrefois, les dieux païens. À nouveau, là, il s'agit de ne pas trop dépayser le bon peuple, qui doit toujours pouvoir y retrouver son compte. La seule innovation vraiment importante, après les 10 000 ans, c'est l'obligation faite de chômer le dimanche. Le dimanche, qui est considéré comme le jour du Seigneur, et qui a aussi un autre but, c'est de combattre l'influence du judaïsme. Jusqu'alors, la pratique du dimanche n'était pas encore quelque chose qui était répandu dans toute la chrétienté, et nombreux étaient les chrétiens qui célébraient, qui se reposaient le samedi, comme le faisaient les juifs, tout simplement parce que c'était ce que les juifs faisaient. Mais avec Constantin, le judaïsme devient une religion qui n'est pas encore ouvertement persécutée, mais en tout cas qui est vite considérée comme une rivale du christianisme. Et elle est considérée comme telle parce que, d'une certaine manière, il est vrai qu'elle l'est, dans ce sens que nous sommes tout de même encore dans la perspective des mouvements messianiques du IIe siècle. Nous ne sommes pas loin encore de ces mouvements-là. Et le pouvoir romain, depuis Adrien, depuis Antonin le Pieux, redoute, n'est-ce pas, des explosions de messianisme du côté juif, notamment en ce qui concerne le pays d'Israël. Or, avec la conversion de Constantin, le pays d'Israël, qui était un petit canton perdu dans l'Empire, n'est-ce pas, Jérusalem, qui était devenu avec Adrien, Aelia Capitolina, était une ville qui était en train de mourir tout doucettement, n'est-ce pas, les temples dressés par Adrien tombaient en ruine. Et puis voilà que brusquement, avec la conversion de Constantin, évidemment, la Palestine, comme on l'appelait alors, n'est-ce pas, eh bien, devient la Terre Sainte. Hélène, la mère de l'empereur, donne l'exemple. Elle se rend en pèlerinage sur les lieux qui ont vu les grands événements de l'histoire du salut. Et là se situe l'histoire, la légende de l'invention de la croix. Hélène serait arrivée à Jérusalem. Et là, divinement avertie, conduite par le Saint-Esprit, elle aurait demandé que l'on creuse un certain endroit, aujourd'hui le Saint-Sépulcre, et là, elle aurait trouvé intacte la vraie croix. Et, bien entendu, cette vraie croix délimitait l'endroit du Golgotha, qu'elle a pu mettre à jour, et à côté, évidemment, il y avait le sépulcre, le Saint-Sépulcre, comme on commençait à l'appeler alors. Immédiatement, Hélène a fait de cette croix des reliques, ont été distribués à de multiples églises, chacun avait un petit bout de la croix. Aujourd'hui, si on rassemblait tous les bouts de la croix qu'il y a dans le monde entier, ce ne serait pas un arbre qu'il y aurait, mais ce serait une forêt. Mais, en tout cas, ça a commencé à ce moment-là. Et surtout, Hélène fait dresser sur l'emplacement où elle a trouvé la croix, eh bien, une somptueuse église qui va devenir l'église du Saint-Sépulcre. Elle fait exactement la même démarche à Bethléem, sur la grotte miraculeuse, la grotte où a eu lieu la naissance de Jésus, et sur laquelle aussi elle fait élever la basilique qui existe encore aujourd'hui, du moins, non pas les murs qui ont été détruits, mais en tout cas les mosaïques que vous avez dû voir sous les trappes que les prêtres ouvrent sont des mosaïques qui datent de l'époque de Constantin, donc d'Hélène. Et à partir de ce moment-là, la Palestine se couvre d'églises. Surtout les lieux saints ont construit des églises, surtout les endroits où se sont accomplies des choses miraculeuses. Là, on a des choses tout à fait savoureuses. La pierre sur laquelle Jean-Baptiste a prêché son premier sermon, la grotte du lait où la Vierge allaitait l'enfant quand qu'est-ce que vous avez, le champ des Bercers, non, le champ des Bercers, c'est un peu plus tard, mais vous avez. J'en passe des meilleurs. Enfin, l'église de la primauté de Pierre, là où Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. On vous montre l'endroit où on a eu la multiplication des pains et des poissons. Enfin bref, ça se couvre partout d'églises. Et puis non seulement ça, mais vous avez un tas de pèlerins qui suivent les traces d'Hélène et qui viennent prier sur les lieux saints, parce que sur les lieux saints, évidemment, les prières sont beaucoup plus efficaces qu'ailleurs. Vous en avez d'autres qui, non contents de venir prier et visiter et s'imprégner, n'est-ce pas, de, des lieux saints, viennent pour y habiter, y vivre, créer des monastères, des couvents, toutes sortes de, d'endroits, ou simplement des ermites qui vont tout simplement habiter tout seuls là-bas sur les lieux qui ont été marqués par la présence et par l'histoire du Christ. Alors, automatiquement, n'est-ce pas, les Juifs qui habitent encore en Palestine, notamment dans la Galilée, la région de la Galilée, eh bien, sont considérés comme des gens hostiles, comme des gens dangereux, n'est-ce pas, pour la foi nouvelle, de par essentiellement leur revendication sur cette terre qui n'est plus la terre d'Israël, mais qui est la terre sainte de la chrétienté. Et parce qu'elle est la terre sainte de la chrétienté, et cette terre ne peut plus être occupée par les Juifs. Et il faut faire en sorte, justement, que le peuple chrétien soit réellement, la religion chrétienne soit, n'ait plus rien de commun avec le judaïsme. Et c'est la raison pour laquelle le dimanche est officiellement, à partir de Constantin, le jour du repos. Il est absolument interdit à un chrétien de se reposer le samedi. Mais il est absolument indispensable qu'il le fasse le dimanche. Et ceci dans l'unique but, encore une fois, de couper le judaïsme du christianisme. Alors, voilà la situation de chrétienté telle qu'elle se présente avec l'avènement de Constantin. À côté de cela, évidemment, le christianisme obtient une grande puissance. Et il le fera davantage encore avec les empereurs suivants, lorsque, avec Théodose, le christianisme deviendra non plus une religion licite parmi d'autres, mais la religion licite et la seule. La religion officielle. Alors là, c'est la consécration. Les ministres du culte, les évêques, etc., les patriarches, les métropolites deviennent des fonctionnaires d'État, ont une puissance temporelle qui accompagne leur puissance spirituelle, et l'Église est une des institutions de l'Empire romain, une des institutions essentielles, parce qu'elle est le ciment qui va permettre l'unité de la mosaïque que représente le monde romain. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de Constantin, on commence aussi à insister énormément sur l'unité de l'Église. Parce que cette unité de l'Église est évidemment le garant de l'unité du monde romain. Et c'est dans ce contexte aussi qu'il nous faut comprendre la controverse arienne. Dans la mesure où l'arianisme est une réalité qui met en cause l'unité de l'Église, c'est aussi une réalité qui met en cause l'unité politique de l'Empire romain. Et face à ce danger qui est finalement un danger qui ne concerne pas seulement l'Église, l'empereur se doit de réagir. L'empereur ne peut pas accepter cette division de l'Église à cause de l'arianisme et éventuellement également d'ailleurs à cause des autres groupements, des autres hérésies qui pourraient surgir aussi à la même époque. Et nous voyons cette chose extraordinaire et unique, n'est-ce pas, c'est que le concile de Nicée est convoqué sur la demande de l'empereur. C'est l'empereur qui convoque le concile de Nicée. C'est l'empereur qui met à la disposition des évêques, des patriarches et des métropolites les locaux, qui payent les dépenses, les frais de transport, les frais de logement pendant tout le temps où ils sont à Nicée. C'est l'empereur qui ouvre les séances plénières, qui inaugure, n'est-ce pas, par une allocution émouvante, n'est-ce pas, le concile de Nicée, et c'est l'empereur qui va le clôturer. Mais plus encore, n'est-ce pas, nous allons voir plus tard, quand nous étudierons justement le déroulement de ce concile, qu'on bute, entre autres choses, sur une question importante. Dans la formulation qui va découler justement des travaux du concile, on déclare un certain nombre de pères, de théologiens, et notamment le plus illustre d'entre eux, que nous aurons l'occasion de revenir, Athanase, n'est-ce pas ? Athanase déclare ceci, le Fils est consubstantiel au Père, homoiousos en grec. Et précisément, ce mot homoiousos, consubstantiel, c'est de la même substance, de la même nature que le Père, que Athanase veut voir inclure dans la formule, n'est-ce pas, pour souligner la parfaite divinité de Jésus. Ce mot consubstantiel fait problème pour un certain nombre de théologiens qui sont à Nice. Et pendant des jours et des jours, on discute sur cette question de l'homoiousie, comme on l'appelle. Et en fin de compte, il y a les partisans du pour, il y a les partisans du contre, on n'arrive pas à trancher. Et qui va trancher? C'est l'empereur. C'est l'empereur qui impose au concile de mettre dans la formule, n'est-ce pas, le mot auquel Athanase tenait tant, consubstantiel au Père. Bon, je trouve que ce mot était juste et que finalement, ce faisant, Constantin n'a pas fait de faute doctrinale, mais ça aurait bien aussi pu être le contraire. On voit ici l'ingérence du pouvoir civil dans les affaires de l'Église. On le touche du doigt d'une manière absolument incroyable. Pourquoi ? Parce que Constantin suivait de très près les travaux du Concile. Non pas parce qu'il était pieux, il ne l'était pas du tout. Non pas parce qu'il était intéressé par les questions théologiques, il s'en fichait comme de sa première chemise, mais parce que pour lui, c'était important que l'Église retrouve son unité. Parce que là, c'était une question politique, c'était l'unité de son empire, et s'il avait justement fait les 10 000 ans, justement, qui faisaient du christianisme la religion officielle de l'empire, c'est essentiellement parce qu'il avait besoin du christianisme uni pour unir son empire. Alors, nous voyons ici le pouvoir civil qui se sert de l'Église à des fins politiques. Et l'Église qui accepte de se prêter à cette manœuvre, qui accepte de servir le pouvoir politique, espérant pouvoir recevoir une autorité et pouvoir contrôler, elle, le pouvoir civil. C'est une lutte d'influence pour savoir qui aura la prédominance sur l'autre. L'Église se dit que si elle est religion d'empire, elle va pouvoir imposer les normes de l'Évangile à l'empire tout entier. Et c'est ce qui se fait, par exemple, avec le dimanche. L'Église se dit qu'alors, elle va avoir une puissance pour la plus grande gloire de Dieu. Et au besoin qu'elle pourra même imposer à l'empereur ses points de vue, sa conception des choses. Et c'est ça justement le régime de chrétienté. Le régime que nous allons retrouver tout au long du Moyen-Âge en particulier, qui va conduire à des conflits entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux, notamment au moment de cette fameuse querelle entre les papes et les empereurs, sur laquelle nous aurons à revenir quand nous arrivons justement à l'Église du Moyen-Âge. Et finalement, qui va aboutir à déconsidérer le christianisme? Et finalement, la crise spirituelle que connaît l'Occident aujourd'hui, la crise spirituelle que connaît le christianisme de nos jours, vient en grande partie de cela. Parce que l'Église a accepté de se prêter à cette manœuvre, à devenir un des auxiliaires de la politique impériale, espérant ainsi en retirer les plus grands avantages. Toutefois, il est clair qu'un certain nombre de chrétiens ont vu le danger, ont compris le caractère inacceptable de cette évolution, de cette dérive de l'Église, et ont décidé de réagir. Pour eux, il y avait une Église qui avait trahi le Christ, et ce n'était plus le christianisme, c'était la chrétienté. Et eux avaient soif de revenir au christianisme véritable. Ceux qui avaient soif de cette pureté primitive ont connu deux chemins, deux évolutions possibles. La majorité d'entre eux, à une époque où l'on insistait tellement sur justement l'unité de l'Église d'une part, et d'autre part par le fait justement que maintenant l'Église était devenue un pouvoir, et elle avait le pouvoir de contraindre par la force maintenant les hérétiques. Nous allons voir qu'elle ne s'en privera pas. C'est au IVe siècle que nous allons voir apparaître les premiers martyrs mise à mort par l'Église. Et nous arrivons à cette espèce de paradoxe absolument incroyable, que cette Église, qui quelques années auparavant était persécutée, voyait des hommes et des femmes être mis à mort parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ, cette Église de persécutée devient persécutrice en l'espace de quelques années. Il n'a pas fallu longtemps. Et là, les premiers martyrs, persécutés par l'Église, viendront apparaître. Et ce ne sont pas, hélas, les derniers. Alors, il est évident qu'il est dangereux. Au IVe siècle, il est dangereux de se mettre au banc de l'Église. Il est dangereux de se désigner à la vindicte de l'Église. Il est dangereux de contester l'évolution de l'Église, du moins ouvertement. Alors, il ne reste plus qu'une seule solution pour ceux qui sont dégoûtés de l'évolution de l'Église. Eh bien, c'est de sortir de l'Église sans en sortir vraiment. Et c'est la naissance du monachisme. Le monachisme qui va apparaître de deux façons. D'abord, au niveau de l'érémétisme, c'est-à-dire des chrétiens fatigués justement de la mondanité, fatigués de la chrétienté, fatigués de la corruption qui règne en son sein, partent dans le désert, tout seuls. Et c'est essentiellement dans les régions proches du désert, c'est en Égypte qu'apparaissent les premiers ermites avec saint Pacôme, qui part tout simplement, d'abord pour échapper à une persécution, puis s'installe dans le désert, dans des grottes, vivant d'expédients. Et finalement, se dit qu'après tout, c'est pas mal. Il vit sa foi là, il n'est embêté par personne. Il est loin de tous ces gens qui ont trahi le Christ. Alors ma foi, il n'a plus envie de voir personne. Et là, il continue à vivre tout seul, dans la prière, dans la méditation, dans une vie frugale évidemment. Et un certain nombre d'autres chrétiens sont attirés par ce style de vie, le rejoignent. Et se créent, un peu partout dans le désert égyptien, un certain nombre d'ermitages, où vivent en solitaire un certain nombre de chrétiens fatigués de cette Église décadente. De l'Égypte, le mouvement gagne la Syrie, puis, avec l'importance d'Israël, de la Palestine en tant que terre sainte, nous l'avons dit tout à l'heure, des ermites aussi vont venir peupler les déserts d'Israël, les déserts de Juda en particulier, les déserts de Juda, non loin de Jérusalem, va se peupler d'une multitude d'ermitages. Et à foule dans le désert de Juda. On s'y bouscule parce que c'est proche de Jérusalem. Alors ça évite aussi les frais de déplacement. On peut aller facilement prier sur les lieux saints, puis revenir ensuite, passer la nuit tranquillement dans son ermitage. Alors ça, c'est la première période. Puis ensuite, eh bien, on se rend compte que peut-être quand même vivre sa foi tout seul dans son coin, c'est peut-être pas tellement évangélique quand même. Et que plutôt de vivre sa foi tout seul comme ça, on pourrait peut-être la vivre cette même dimension finalement. Ce même absolu de l'évangile, parce que ce sont des gens qui ont soif de la vie de l'évangile, on pourrait le vivre plutôt en communauté. Et se créent les premières communautés monachiques, toujours dans ces déserts. D'abord des petites communautés de 5-6 ermites qui finalement se groupent ensemble. Et puis ensuite, on va donner des règles précises de vie. Et puis il va y avoir une espèce de rivalité. Les règles seront de plus en plus strictes, n'est-ce pas ? Les pères fondateurs des monastères mettront leur point d'honneur à avoir la règle la plus rigide qui soit. Et en même temps, se crée une espèce de rivalité malsaine à ce niveau-là, un ascétisme tel qu'on arrivera au 7e siècle avec Siméon. Siméon le stylite, le bonhomme qui a vécu 38 ans au sommet d'une colonne, de 30 mètres de haut, je crois, au sommet de laquelle il y avait une plateforme de 2 mètres sur 2 mètres. Et puis, il vivait là. Il a vécu 38 ans sans descendre de là. Il est mort là-haut. Alors, les gens venaient le voir de toute la région. On lui apportait des provisions dans un panier qui montait par une poulie, etc. Puis, du haut de sa colonne, il exhortait le monde qui venait le voir là. Alors, ça c'était le nec plus ultra, c'était le fin du fin. Alors, voilà, ça c'est une manière justement d'échapper à cette église décadente. Maintenant, à côté de cela, il y a ceux qui ont voulu revenir alors à des réalités évangéliques beaucoup plus authentiques et beaucoup plus vraies, qui ont voulu reprendre l'Évangile et vivre l'Évangile. En fait, nous avons vu que déjà au siècle précédent, un certain nombre de ce que l'Église catholique appelle les hérétiques étaient en fait des gens qui avaient soif déjà d'une vie beaucoup plus évangélique, beaucoup plus vraie, beaucoup plus conforme à l'Écriture, et pour cela avaient entraîné des réactions qui parfois avaient conduit à des ruptures avec l'Église officielle. C'était le cas par exemple des donatistes. Or, les donatistes au IVe siècle, ils continuent à exister. En fait, ils se maintiendront en Orient jusqu'à la conquête arabe, jusqu'au IXe siècle, et ces gens-là vont être l'objet, dès le IVe siècle, des persécutions de l'Église officielle. Augustin, par exemple, à la fin du siècle, le siècle suivant, lui ne fera pas de détails, il préconisera contre eux la manière forte. Il utilise le verset de l'Évangile, vous savez, dans la parabole du grand festin, quand le maître a envoyé chercher les mendiants, les boiteux, tous ceux qui avaient... Bon, alors, on les fait rentrer à la salle du festin, et puis le maître dit, mais encore de la place. Alors, il dit, oui, encore de la place. Mais retourne sur les routes, et tous ceux que tu rencontreras, contrains-les d'entrer. Alors, voilà. Augustin a trouvé là une justification théologique et biblique de l'emploi de la force. Les hérétiques, tous ceux qui refusent de se plier à l'Évangile, il faut les contraindre par la force et par la violence. Et ça, ce sera la théologie, n'est-ce pas, du Moyen-Âge, au nom de laquelle on fera brûler les hérétiques, on les torturera, on les empalera, on les dépècera, on les écartera, j'en passe et des meilleurs. Alors, les donatistes sont hélas les premiers à faire l'expérience de cette théologie nouvelle à leur dépens. Et on s'en assiste à cette situation paradoxale que la Rome papale qui va surgir de Constantin, parce que finalement l'institution papale qui était déjà en gestation jusqu'alors, maintenant trouve avec Constantin évidemment une justification. D'abord parce que l'empereur est content d'avoir en face de lui un vis-à-vis, que l'Église soit centralisée va dans son sens, puisque l'Empire est centralisé, donc il faut que l'Église soit centralisée aussi. Et Constantin favorise la papauté. L'institution papale. L'institution papale est aussi une institution qui permet à l'empereur de contrôler par l'intermédiaire du pape les différents rouages de l'Église. Et on assiste à ce paradoxe que la Rome papale qui naît alors égale, voire surpasse en cruauté, la Rome païenne. N'est-ce pas ? Et c'est ainsi que, par exemple, on verra un peu plus tard, un homme comme Pélage, qui sera un hérétique dans son propre du terme, eh bien, qui réagira contre cette situation. Et c'est le point de départ de son hérésie, justement, de sa révolte contre Rome. C'est cette cruauté que l'Église manifeste alors vis-à-vis de ceux qu'elle considère comme des hérétiques. Mais nous avons, à cette époque-là, de véritables mouvements de réforme qui vont apparaître dans l'Église, hélas, pour être étouffés, pour être écrasés, justement, par la persécution de l'homme. Nous avons un certain Priscillien, n'est-ce pas, qui était un formateur de cette époque-là. C'était un évêque. Et en 380, il a tenté, justement, dans son diocèse, de promouvoir une réforme de type évangélique. On a tout de suite réagi et il a été accusé de manichéisme, une hérésie qui faisait rage à ce moment-là, ce qui était tout à fait erroné aussi qui le concernait. Et comme on n'a pas pu, justement, prouver qu'il était hérétique dans ce domaine-là, eh bien, on a attendu quelques années, on a trouvé autre chose. 384, il est accusé de sorcellerie et d'immoralité, et décapité. C'est le premier martyr de l'Église. Le premier martyr qui est mis à mort par l'Église. Et le procès, ce qu'on avait réussi à trouver contre lui, outre cela, c'est... Et donc, ces gens-là, qui étaient souvent justement des gens qui avaient ces entrées à la cour et ailleurs, n'appréciaient pas de se voir refuser la Sainte Cène par son minable évêque. Et ce sont eux qui l'ont dénoncé auprès des pouvoirs publics et qui ont tout manigancé justement ce qui concernait son procès. Il était aussi opposé à la cléricalisation de l'Église, à cette constitution d'une caste qui était maîtresse du salut et distributrice du salut. Et Priscillien avait essayé de créer une église de professants, en fin de compte, de revenir à une église de professants. Et il avait créé ce qu'il appelait de petits conventicules, c'est-à-dire de petits groupes où ne se rassemblaient que des gens qui étaient connus pour leur engagement, qui s'efforçaient de vivre d'une manière conforme à l'Évangile et qui étaient connus pour cela. De petits groupes où tout le monde se connaissait, où on était sûrs les uns des autres, et c'est dans ces groupes-là, justement, qu'il donnait la Sainte Cène. D'autre part, il était pour l'indépendance des communautés, les unes par rapport aux autres, et contre, par conséquent, cette espèce de centralisation qui était en train d'apparaître dans l'Église sous l'instigation de Constantin. Il était évêque d'Avila, en Espagne, et c'est de là-bas qu'est partie la réaction. En fait, son procès et sa mise à mort ont soulevé un certain nombre de polémiques au sein de l'Église. Ce supplice n'a pas été accepté par tous, et notamment Martin de Tours, qui était devenu évêque entre-temps, vous savez, ce fameux soldat, n'est-ce pas, qui avait partagé son manteau, dans le geste bien connu, le partageant avec son épée, avec le pauvre qu'il avait rencontré sur la route, et qui était converti, et ensuite était devenu évêque de Tours. Martin de Tours s'était opposé à la mise à mort, n'est-ce pas, de l'évêque d'Avila. Ambroise de Milan, qui était aussi un homme influent dans l'Église de son temps, et un homme sincère et honnête par bien des aspects, qui sera celui auprès duquel Augustin se convertira, lui aussi avait pris position contre le supplice de l'évêque d'Avila. Mais, cette opposition ne servira à rien, et la persécution va se poursuivre vis-à-vis de ceux qui suivent, donc ceux qui avaient suivi l'évêque d'Avila. Ça se fera d'une manière beaucoup plus secrète, beaucoup plus discrète, mais les partisans, n'est-ce pas, de l'hérésie, entre guillemets, seront l'objet, d'une manière tout à fait discrète, des plus horribles persécutions et des plus horribles supplices. L'Église va, à ce moment-là, supprimer tout ce qui reste de ce mouvement de réforme, en sorte que, pratiquement, il est impossible d'en trouver même des traces historiques chez la plupart, justement, des historiens de l'histoire de l'Église. Et non seulement on connaît, n'est-ce pas, ce mouvement de réforme-là, parce que quand même, il en est resté quelques traces, mais ça et là, dans l'Empire, à cette période-là, naissent des mouvements de réaction semblables. Sur eux va s'abattre la plus horrible, la plus impitoyable des persécutions. L'Église ne supporte pas ceux qui résistent, n'est-ce pas, à l'union entre l'Église et l'État. L'Église ne supporte pas, n'est-ce pas, ceux qui remettent en question cette évolution qu'est la sienne. Et chaque fois que quelqu'un lève le petit doigt, n'est-ce pas, pour s'y opposer, pour contester immédiatement, toute la force, n'est-ce pas, et toute la violence de l'Église s'abat sur elle. Et non seulement les hommes et les femmes qui professent ces doctrines sont mis à mort, sont persécutés, mais surtout les écrits. Leurs écrits sont détruits. C'est pourquoi nous connaissons mal ces mouvements. Mais ils existaient. Et ils sont détruits parce que plus encore que les hommes, les écrits étaient dangereux, étaient pernicieux. Et si jamais ces écrits avaient continué à circuler dans l'Église sous le manteau, eh bien il y aurait eu là un feu, n'est-ce pas, qui aurait continué à couver. Et l'Église craignait justement que ces braises remettent le feu quelque part. Alors c'était une chasse aux documents terrible, n'est-ce pas, et chaque fois qu'on était pris en possession de ces documents-là, ces documents étaient impitoyablement détruits. Alors, à côté de cela, nous trouvons dans les textes officiels de l'Église des calomnies. Des calomnies à l'endroit de ces hérétiques-là. exemple, nous avons vu que l'évêque d'Aquila était accusé de manichéisme, était accusé d'immoralité, était accusé de sorcellerie. Alors, c'était des procédés classiques. Quand on voulait détruire un hérétique, n'est-ce pas, entre guillemets, on venait souvent à ces prétextes-là pour pouvoir justement sévir contre lui. Et il est donc difficile de retrouver cette histoire d'une manière précise. Mais nous savons malgré tout que le IVe siècle a été marqué par d'authentiques et de véritables réveils. Des réveils profondément spirituels qui ont agi, qui se sont manifestés dans certains endroits. C'est aussi le cas, par exemple, en Arménie. En Arménie, qui était un royaume qui était en dehors des limites de l'Empire romain, mais qui va être évangélisé à partir de cette période-là. Et il va y avoir un véritable réveil dans ce pays qui va tout entier, sous l'instigation de son roi, qui va se convertir au christianisme et qui va aussi faire la même démarche que Constantin. Il va imposer le christianisme comme religion d'État. Néanmoins, et ceci est tout à fait intéressant, l'Arménie ne fait pas partie de l'Empire romain. Donc, l'église qui va se constituer en Arménie est une église nationale, est une église qui n'est pas liée avec l'église romaine et qui ne se sent pas sous la coupe de l'institution papale qui est en train d'apparaître dans l'Empire romain. Et l'église d'Arménie, jusqu'à nos jours, va continuer à avoir une existence autonome, indépendante du siège de Rome. Encore une fois, nous voyons là que la fable, n'est-ce pas, de l'église catholique une et indivise jusqu'à la réforme, est quelque chose d'absolument faux. Dès les origines, n'est-ce pas, dès l'apparition de la chrétienté, eh bien, il y a des églises indépendantes, il y a des églises qui ne se sentent pas du tout dépendantes du siège de Rome et qui continuent à mener une existence tout à fait indépendante en ce qui les concerne. Alors, l'église d'Arménie a ceci de différent de l'église romaine, c'est que ils sont contre, au départ en tout cas, contre les baptêmes, le baptême des enfants. Et en même temps, n'est-ce pas, ces groupes-là, ce problème du baptême des enfants, à partir de l'Arménie, va se poser dans différents endroits de l'Empire romain. Et nous voyons ça et là, des communautés locales qui rejettent le baptême des enfants, qui refusent de donner la Sainte-Seine à ceux qui ont été baptisés enfants, qui refuse de donner la Sainte-Seine à ceux qui n'ont pas fait profession de foi, d'une manière directe. Ces églises s'appellent entre elles églises pauliniennes, justement, parce qu'elles trouvent que ça va chez saint Paul. On les appelle aussi les Thorax. On les trouve surtout en Asie mineure, puisque c'est près de l'Arménie, justement, et en Arménie elle-même. En outre, ces églises remettent en question la question de la succession apostolique et leur but, c'est finalement de revenir à l'église du 1er siècle. Inutile de dire que ce n'est pas tout à fait dans la vision de l'église officielle et que la persécution, la répression ne tarde pas à s'abattre sur elle. Ce sont les premiers aussi à s'élever contre l'invasion des images qui se manifeste dans l'Église à ce moment-là. Parce que, bien entendu, les païens entrent dans l'Église avec des images. Déjà, dans les siècles précédents, on avait commencé à faire des images, des statues. On n'a pas attendu Constantin pour cela. Mais bien sûr, avec Constantin, eh bien, ça se multiplie. L'Église Sainte-Sophie à Constantinople, n'est-ce pas, est bourrée d'icônes, de vitraux, de statues, de tout ce qu'on voudra. Et l'empereur, qui a les moyens maintenant financiers, qui met à disposition de l'Église, parce que, bien entendu, ça coûte cher, de faire des statues, de faire des icônes, etc. Bon, maintenant, l'Église a les moyens de se payer ces choses. Alors, évidemment, on en profite. C'est une profusion d'icônes, de statues diverses, n'est-ce pas, qui font qu'un certain nombre de chrétiens sont choqués et reviennent à ce que dit la Bible, tu ne feras pas d'image. Et nous voyons déjà apparaître ici les premiers, les premiers germes de cette grande querelle qui naîtra quelque part, quelque temps plus tard, justement à Constantinople, la fameuse querelle iconoclaste, où un mouvement, n'est-ce pas, va mettre en question la légitimité des icônes. Et il va y avoir des bris d'icônes, n'est-ce pas, jusqu'à ce que finalement il y ait la réaction et que les anti-iconoclastes triomphent jusqu'à nos jours. Alors, au travers de ces choses, évidemment, ces chrétiens ont fait l'analyse très juste que ceci favorise un néopaganisme dans l'Église, en ce sens que les saints qui sont représentés par ces statues prennent la place des dieux païens qui étaient vénérés par les païens d'autrefois qui sont maintenant christianisés. Mais il est évident que, comme ça va à l'encontre de la politique officielle, eh bien ces gens-là sont persécutés. Et tellement persécutés, finalement, qu'ils disparaissent sans laisser de traces. Et là, il y a des milliers et des milliers de martyrs dont on ne parle pas, qui n'ont pas leur nom dans le martyrologe pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont été persécutés par l'Église dominatrice et triomphatrice qui s'est efforcée de faire disparaître jusqu'à leur souvenir et jusqu'à toute trace de leur nom. Il est évident que dans les cieux, nous les retrouverons. Et là, nous saurons ce qu'a été leur difficulté, leur calvaire et leur fidélité également. Voilà, si vous voulez, ce que nous avions à voir ce soir.